à portée de mots. La musique et les lettres. Avec Axel Thierry sur Musique 3.
Bonjour, Axel Thierry au micro. Bienvenue dans cette émission sur la musique et les lettres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc Potrel. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de votre livre « L'éternel printemps » paru chez Gallimard, les éditions Gallimard qu'on remercie pour leur accueil. Nous sommes ici dans un très joli salon qui donne vue sur un jardin avec une double fontaine qu'on entend peut-être. Alors, un petit mot de présentation pour dire que vous avez d'abord fait des études de droit et puis que vous avez décidé de vous consacrer à l'écriture. Et vous avez publié 8 romans aux éditions Gallimard dans la collection « L'infini ». L'homme pacifique, un voyage humain, polaire, orpheline, une jeunesse de Blaise Pascal, la sainte réalité, la vie princière, que de beaux titres, et l'éternel printemps. Et si on commençait par parler du titre, Marc Potrel, qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Pourquoi avez-vous choisi ces mots-là?
Eh bien, l'éternel printemps, c'est le narrateur qui, lorsqu'il rencontre pour la première fois cette femme, en racontant donc cette rencontre, explique qu'il ne peut pas lui donner d'âge et qu'elle est comme un éternel printemps. Et ensuite, quand j'ai terminé d'écrire, je me suis rendu compte que l'éternel printemps, ça pouvait être le nom, le surnom que je pouvais donner à cette femme. Parce que c'est vrai que là, je m'en rends compte avec celui-là, dans les romans précédents, là, beaucoup sont des portraits de femmes. Et le titre du livre était à chaque fois... parfois un simple mot ou quelque chose qui pouvait qualifier cette femme. Et j'avais écrit un roman qui s'appelait Orpheline, un autre qui s'appelait Polaire. Et là, l'éternel printemps, ça, c'est en quelque sorte le surnom de cette femme dont on va parler, qui est donc plus âgée que le narrateur.
Mmh. La première phrase, c'est « Tout commence un jour de printemps ». C'est déjà une si belle entrée en matière et on accompagne le narrateur qui voit cette femme. Et en fait, il dit qu'elle est bien plus âgée que tous et pourtant bien plus vive, je vous cite, en pleine jeunesse comme en pleine croissance. Et on dirait que ce qu'il voit, c'est le reflet de la vie dans son corps plutôt que son apparence. Ça m'a d'ailleurs fait penser à la sculpture de Rodin, « L'éternel printemps ». Et voilà.
Oui, alors donc c'est vrai qu'il y a une sculpture de Rodin. J'ai découvert après coup, effectivement, que Rodin avait fait une très belle sculpture qui représente l'amour très fusionnel et très charnel et qui s'appelait donc l'éternel printemps. En fait, c'est vrai que immédiatement, il s'attache pas à son âge, mais il sent une histoire, une continuité, quelque chose qui est dans la longueur et une accumulation d'années ou d'expériences ou une histoire, une densité. Il y a des personnes, on sent immédiatement qu'elles ont vécu ou qu'il y a une profondeur. Et là, oui, il comprend tout de suite qu'il y a un rapport au temps différent. Et en fait, je crois que il ne comprend pas tout de suite qu'elle est plus âgée, ou il y a une sorte de coup de foudre inconscient ou qui s'ignore, mais qui est lié à cette densité temporelle, ou comme s'il y avait un alignement qu'on voyait quand on voit parfois sur les routes des alignements d'arbres comme ça, où ça fait une perspective. Donc immédiatement, il a instinctivement l'idée d'une perspective, d'une longueur. Alors que quand on voit une personne, on la voit vivante à un temps présent et on n'imagine pas ce qu'il y a eu avant ou ce qu'il y a eu après. Et là, immédiatement, c'est peut-être cet effet du coup de foudre et de l'amour ou de quelque chose qui se passe. Il comprend que voilà, qu'il y a une histoire avant, et il perçoit immédiatement l'épaisseur temporelle de la personne. C'est-à-dire, c'est comme si dans l'espace, dans ce qu'il voit, il voyait un autre espace qu'est l'espace du temps.
Et alors, on est très vite emporté dans le livre par une sorte de grâce de l'écriture. Est-ce que vous avez envie, Marc Potrel, d'expliquer ce que vous recherchez dans l'écriture, ce que vous essayez d'atteindre dans l'écriture?
Oui, alors là, vraiment, ce que j'essaie de faire, parce que je l'ai expérimenté en tant que lecteur, où j'ai été parfois déçu de ne pas l'expérimenter, j'essaie de faire en sorte que le lecteur soit tellement plongé dans l'histoire qu'il ait l'impression de la vivre lui-même et de ressentir lui-même ce que ressent le narrateur. Donc, ça veut dire que j'écris d'une façon particulière, avec des textes assez courts, avec parfois des scènes très survolées, très résumées, avec peu de détails. C'est une technique ou beaucoup de travail et de correction pour arriver à quelque chose qui fasse adhérer le lecteur le plus près possible du texte et de ce que le narrateur a ressenti ou de ce que, voilà, de ce que je veux faire ressentir au lecteur. Il faut vraiment que ça soit une sensation directe et une plongée dans l'univers de ce que vit le narrateur et de ce que vivent les personnages.
Et au moment où vous écrivez aussi à partir de votre souvenir. Alors, dans quelle mesure est-ce que pour vous, le temps présent de l'écriture se mêle au passé et au souvenir ?
Disons que la plupart de mes livres ont toujours une base autofictionnelle. Alors, j'écris aussi des livres, un livre sur Blaise Pascal et un livre sur le peintre Chardin, qui, eux, s'appuyaient sur des événements historiques, sur des personnages, sur des biographies. Mais souvent, c'est vraiment des autofictions, c'est-à-dire des choses que j'ai vécues, des personnages que j'ai rencontrés, des femmes que j'ai rencontrées et que j'ai aimées. Et livre après livre, j'ai trouvé une sorte de petit système, de petit dispositif où, en me remémorant ou en racontant, en essayant vraiment de me replonger par la mémoire dans ce que j'ai vécu, j'arrive à raconter l'histoire au plus près pour la faire revivre. Mmh.
Et comment est-ce que vous vivez le fait d'écrire à partir de personnes de votre entourage qui existent, et comment est-ce qu'elles le vivent? Parce que finalement, elles peuvent se dire, si je rentre dans sa vie, il va me mettre dans un livre. Enfin, je ne sais pas.
En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, tous les personnages sont anonymisés, c'est-à-dire je change le métier, je change plein, je mets pas de prénom, donc c'est très compliqué que les personnes réelles soient reconnues. Et ensuite, donc, je ne dis jamais aux personnes que j'écris sur elles, et je dis jamais de mal. Enfin, c'est plus, je fais encore la comparaison avec le portrait d'un peintre. Quand un peintre fait un portrait, qu'il s'agisse de Ingres, de Manet, c'est pas une caricature. Enfin, c'est quelque chose où il prend ce qu'il y a de plus beau, de plus profond, de plus unique de la personne. Donc tous les livres que j'ai écrits sur des personnes effectivement qui, dans une certaine mesure, existent et peuvent se reconnaître, c'est des choses positives. Donc c'est vrai que je fais jamais lire avant, mais après, généralement, les personnes sont pas du tout, enfin, sont plutôt heureuses de ce que j'ai écrit. Et comme voilà, il n'y a pas les noms, il n'y a pas les dates, il n'y a pas les lieux, il n'y a pas de soucis de vie privée ou de, enfin, ça fait comme 10 ans que j'écris ce genre de livre. C'est des choses qui se font naturellement et auxquelles on pense pas dans la vie réelle. En tant que lecteur ou critique littéraire, on peut imaginer ça, mais dans la réalité, en fait, les choses sont beaucoup plus fortes, vraies, immédiates, et voilà, on se dit pas, ça va faire un livre. Je pense pas que je cherche à écrire des livres sur des personnes pour faire des portraits, pour rendre hommage ou pour les mémoriser. Ou je cherche plutôt à créer une expérience de lecture, ou à enregistrer ou imprimer ou à graver ou à mettre sous cloche ou à conserver un type d'émotion. Et là, l'émotion en question, c'est cette zone étrange entre l'amitié et l'amour, entre l'attirance ou l'affection, ou même l'amour véritable, et l'absence d'amour physique ou d'amour charnel. Il y a une frontière qu'on peut franchir ou pas franchir. Et là, dans ce livre, le narrateur et l'héroïne restent sur cette frontière. C'est comme une ligne de crête, une montagne avec des pentes très, très abruptes, et puis une ligne de crête très étroite sur laquelle cet homme et cette femme se promenaient le plus longtemps possible. Et même, comme le livre en fait n'a pas de fin, continue à se promener, parce que cette attirance est d'autant plus forte qu'elle n'est pas consommée. Il y a quelque chose vraiment de magnétisme, d'aimantation qui, voilà. On sait que les moteurs électriques, en fait, c'est un aimant qui tourne autour de, enfin, c'est des aimants qui tournent les uns autour des autres. Et c'est précisément parce qu'ils ne se touchent pas que ça crée un mouvement. Et là, c'est ça, c'est créer une électricité ou créer un arc électrique. Voilà, l'arc électrique, c'est quand les deux sources d'électricité sont tellement proches que l'air ne fait plus isolant, et que donc l'électricité passe à travers l'air. Et c'est ça, c'est cette proximité sans contact, c'est ça que vraiment je voulais montrer. Et donc, du coup, avec plein de péripéties ou de choses étranges liées à la canicule, ou en fait plein de petits détails, ça permet de revenir encore sur cette proximité ou cette absence de contact qui en même temps est une attirance continue.
Est-ce que parfois ça explose dans le rire? Parce qu'il rit souvent, en fait, au cours des conversations. Et là, on a l'impression que c'est un moment où ils peuvent s'abandonner à une espèce de communion, pas physique, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il y a beaucoup de fou rire. C'est vrai que le rire ou le fou rire, on peut avoir un fou rire tout seul, mais généralement, les fou rires, c'est à deux ou trois. Et le fou rire, surtout à deux, c'est vraiment une sorte de communion. Et là, on est sur le... C'est leur contact physique à eux deux. C'est le moment où ils sont le plus proches. Et c'est vrai qu'il y a une grande liberté, parce que c'est une femme qui est à la fois très angoissée et terriblement drôle et enfantine et libre et très comique. Et en plus, il y a des scènes qui elles-mêmes sont comiques. Dans le jardin, il y a les oies, il y a, voilà, qui se promènent, qui entendent la cloche de fermeture du jardin, du parc, mais en fait, comme c'est la canicule et en période de forte canicule, les jardins sont ouverts plus tard, jusque 22 heures. Et donc les oies sont persuadées que le jardin est fermé et elles sortent déambuler dans le jardin comme elles font quand le jardin est fermé. Mais il y a plein de choses cocasses ou d'événements avec le principe du comique qui est qu'il y a un empilement de causalités ou de choses qui se déclenchent et qui créent quelque chose de drôle.
Que c'est aussi un livre sur les fêlures, parce qu'on se rend compte que lui est peut-être prêt et qu'elle, pour des raisons un peu primordiales ou d'enfance ou autres, elle n'y arrive pas. Et lui, il fait tout ce qu'il peut pour les laisser dans le soleil, mais il y a quelque chose de ces fêlures à elle qui les retranche plus dans l'ombre.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis au début du livre une exergue de Parménide, un philosophe grec présocratique, et qui dit « Toute chose est remplie à la fois de lumière et de nuit obscure, l'une et l'autre ayant part égale en sa nature. » Parce que c'est vraiment une femme qui a à la fois une partie très joyeuse et une partie très angoissée, et qui peut ne pas dormir de la nuit ou partir dans des grandes angoisses, et qui ensuite, dès que les nuages ont été chassés de son esprit, elle rit, elle est très joyeuse. Donc voilà, il y a toujours cette attirance vers une sorte de précipice de tristesse, avec dans sa vie beaucoup de choses apparemment tristes, mais qu'elle ne qu'elle ne veut pas raconter à cet écrivain qui pourrait ensuite le mettre dans des livres. Et donc le fait qu'elle ne dise rien se donne encore plus de mystère, de profondeur et de tristesse. Et on sent une existence qui a été très triste et en même temps une joie immanente, naturelle et irrépressible. Et donc c'est cette alternance avec le narrateur qui essaie toujours de... Quand il voit qu'elle glisse sur cette pente-là, il essaie de la ramener sur sa pente joyeuse. Par exemple, un jour, elle arrive, elle est habillée tout en noir. Même pas une touche de couleur. Et il se dit, c'est comme si elle était en deuil. Et puis, il y a aussi cette fois où elle parle de sa mère. Elle était très attachée à sa mère. Elle porte une... Alors qu'elle est célibataire, enfin, elle n'est plus mariée, elle porte une alliance. Et le narrateur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, mais je porte l'alliance de ma mère pour éviter d'être importunée, voilà, par tous les dragueurs partout dans son métier. Et un jour, elle dit qu'elle porte cette alliance parce qu'en fait, elle est mariée avec sa mère, parce que c'est l'ancienne alliance de sa mère. Donc il y a des choses très tristes, mais qui sont très brèves et qui sont chassées ensuite comme un coup de vent qui chasse des nuages. Et puis ça revient, oui, à une alternance comme ça, une sorte de mouvement perpétuel, obscurité, soleil, qui touche tout le monde, mais qui là est vraiment caractéristique parce que c'est vraiment les angoisses et ensuite la joie. Mmh. Avec toujours le fait que, en parlant avec quelques mots, avec le narrateur essaie de la ramener du côté de la joie parce que, voilà, quand on réfléchit ou quand on regarde l'absurdité ou le caractère drôle, il y a plein de choses partout autour de nous qui sont drôles ou qui sont tellement, tellement désespérantes qu'elles en deviennent cocasses et qu'on peut les tourner en dérision. Et il y a le fait, oui, de parler. On n'a pas encore évoqué ça. La conversation, le fait de parler pendant des heures, parler en mangeant, parler en se promenant, parler sur les bancs publics, voilà. Parler, c'est vraiment la conversation. C'est le fait, leur relation physique, c'est la conversation, la parole. Ils se voient jamais avec d'autres amis. Ils ne forment pas un couple, mais ils pourraient avoir d'autres amis. Et non, excepté la première rencontre, ils se voient toujours que tous les deux, en tête à tête, toujours.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous proposer une petite lecture, oui, sur la conversation?
Nous parlons pendant des heures, des après-midi, quasiment des journées entières. Avec elle, c'est l'exercice complet et parfait de la conversation française, profonde, diverse, sincère, érudite, libre, didactique, tentatrice, réservée, tacticienne, débridée et pourtant extrêmement codifiée. La parole courtoise par définition. Nous parlons de presque tout, ses souvenirs, mes souvenirs, ses amants, mes maîtresses, un peu de sexe survolé, un jeu complexe d'approche et d'éloignement, d'écart, de circonvolution et d'extrême plaisir intellectuel. Nous nous décrivons nos royaumes respectifs et chacun de ces pays est un délice pour l'autre. Nous nous faisons la cour mutuellement. La conversation française est bel et bien une forme de pratique érotique.
Merci beaucoup. Et puis un jour, dans un café, il y a beaucoup de bruit. Alors il ne comprend pas ce qu'elle dit, mais on a l'impression qu'il l'aime encore plus. C'est un des moments magiques.
Oui, parce qu'il a, donc il y a un bruit assourdissant, et donc ils se comprennent pas mutuellement, mais il se trouve que là c'est elle qui parle parce que chacun peut parler très longtemps et s'écouter. C'est ça aussi l'amour. Et ils peuvent aussi dialoguer, avoir des sourires. Et là, elle parle très longtemps et il y a tellement de bruit, il comprend plus ce qu'elle dit, mais il la voit parler. Très belle, faire ses mimiques qui sont de remettre sa grande mèche, de remettre ses cheveux avec un geste très particulier. Donc elle fait tous ces gestes d'expression, mais il comprend pas ce qu'elle dit. Donc c'est comme une sorte de film muet où il la voit bouger, penser, élaborer son discours sans comprendre ce qu'elle dit, et il la trouve très belle. Thank you.
Merci beaucoup, Marc Potrel. Si on revenait au fait que vous décriviez qu'elle est très inquiète et que lui essaye de la maintenir du côté du soleil, vous écrivez, je vous cite, « Elle est toujours si inquiète. Chaque fois que nous parlons ensemble, je tente de ne pas éveiller ses angoisses, de rester sur la voie radieuse du paradis futur. » Alors ça m'a interpellée. Je me suis demandé ce que vous pensez du rapport entre les croyances qu'on a et la vie qu'on a. Parce que vous écrivez aussi un autre moment par rapport à la mort. Il y a une pensée de la mort qui apporte lentement la mort et une pensée de la vie qui préserve la vie.
C'est un hommage à la pensée et au fait qu'il faut essayer d'avoir une boussole en soi et de toujours la compulser et regarder dans quel sens se trouve le nord ou le sud, ou enfin dans quel sens se trouve l'horizon et son propre chemin. Cette boussole, en ce qui me concerne, en ce qui la concerne elle aussi, donc c'est le... La discussion, la parole, la pensée, et c'est aussi la lecture, puisque lui est écrivain, et elle est libraire en livre ancien. Donc il y a plusieurs endroits où elle lui apprend, elle lui explique ce qu'elle vend, ce qu'elle a comme livre. Elle lui montre des incunables ou des livres très anciens qui sont comme neufs. Et elle est dans son magasin de livres anciens, avec des milliers de livres, avec leurs tranches de cuir ou de peaux et leur dorure d'or. Et ça fait, on a un peu l'impression que ça serait comme si elle était entourée de ses fils et ses filles, ou de milliers de livres qui sont autour d'elle, de livres très anciens, qui ont une valeur, qu'elle achète et qu'elle vend d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, c'est leur balade qui se passe dans des parcs, au bord de la Seine, dans une très belle ville qu'est Paris. Ça, c'est cet ensemble de choses, le fait de marcher, de parler, de manger, de lire, de penser. C'est ça qui en fait, préserve, et c'est ça qui est la boussole qui permet de ne pas couler, sombrer ou se laisser aller à toutes les choses tristes, puisque de toute façon, on a toujours 500 raisons d'être triste ou d'imaginer un futur négatif, alors qu'il peut très bien être positif. Et c'est vraiment quelque chose, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, je sais pas, la pensée positive, mais c'est vraiment penser, parler, marcher, manger, discuter, échanger. En fait, c'est ça, être vivant. C'est un ensemble ça me semble évident. C'est pour ça que je parle d'art de la conversation. Ça me semble évident, mais c'est dans quelque chose qui est une sorte de 18e siècle français, ou de culture, ou de vie, de pensée en acte, une façon de regarder vers le soleil et d'être toujours en mouvement.
Et alors, dans ces promenades qu'ils font dans le livre, on a l'impression que le but n'est pas d'aller quelque part, mais que le but, c'est vraiment la promenade, le fait de découvrir quelqu'un en marchant. Et par je ne sais quel détour de la pensée, ça m'a fait penser au film de Wim Wenders, Les ailes du désir. Il y a quelque chose du narrateur qui me fait penser à ça. On a l'impression qu'il est un peu irréductible à tout ce qui rend la vie un peu pesante. D'ailleurs, à un moment, il parle carrément de... Enfin, j'ai l'impression qu'il a une dimension un peu cosmique. Par exemple, il parle de la vitesse de la rotation de la Terre. Et en l'imaginant comme ça, en promeneur, attentif, ça me fait penser à ce film. Mais bon, ce n'est pas simple impression que je vous confie. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur la personnalité du narrateur à ce niveau-là.
Vous parliez des ailes du désir. Dans les ailes du désir de Wim Wenders, ce qui est extraordinaire, c'est évidemment les anges gardiens. Qui sont là et qui sont au-dessus de l'épaule de l'étudiant, qui protègent le mortel. Et en fait, je pense que dans l'amour, chacun est l'ange gardien de l'autre, et que le fait d'être côte à côte tout le temps, c'est une présence où chacun veille sur l'autre, même si c'est pas explicite. Et toujours, effectivement, le fait de marcher sans but précis, mais uniquement pour avoir une raison de rester plus longtemps avec l'autre, et de parler, de faire fonctionner son corps dans la joie, en compagnie de l'autre, puisque il y a Bon, je ne vais pas dévoiler la fin, mais voilà, il n'y a pas encore de, ils n'ont pas encore consommé leur amour, et donc voilà, ils marchent ensemble, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, leurs corps sont actifs ensemble. Ils essaient de pousser le plus loin possible ces balades qui n'en finissent pas d'ailleurs. Donc au début c'est des déjeuners, après c'est donc l'après-midi, après c'est des balades le soir. Ils vont reprendre un verre après le dîner, puis ils repartent marcher, puis ils se séparent quand même au début de la nuit.
Vous avez cité le mot joie. Il y a beaucoup de joie dans ce livre, en tout cas en le lisant, c'est ce qui m'a semblé, que c'était un livre plein de joie.
Oui, bah, y a la joie déjà des personnages, c'est-à-dire ce qui plaît chez cette femme, ce qui plaît au narrateur chez cette femme, c'est sa joie. Les deux sont plutôt joyeux, et puis c'est redoublé par le fait que deux personnes joyeuses sont ensemble et sont heureuses d'être ensemble, donc ça fait une sorte de caractère exponentiel de joie. C'est de joie, voilà, c'est d'où les fous rires ou d'où le plaisir d'être ensemble.
Et alors, c'est un livre où le temps est très présent, on l'a déjà un petit peu évoqué. Il y a le temps dilaté pendant les promenades, pendant tous les moments où ils sont ensemble. On a l'impression que l'amour fait que le temps n'a aucune importance. Et puis, il y a le temps de lié à son métier à elle, avec ses livres anciens qui, en même temps, ont l'air, comme elle, éternellement jeune, en fait, enfin, qui ne portent pas leur âge. Et puis, il y a le temps de l'écriture aussi, mais peut-être dans une autre étape. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur la dimension du temps dans ce livre?
Oui, il y a aussi le temps qui fait. Et c'est le livre du réchauffement climatique, parce qu'effectivement, il y a eu une énorme canicule maintenant. Donc, le livre a été écrit avant la dernière canicule, mais bon, je crois que de plus en plus, on va avoir des canicules. Et puis, il y a, donc, ça se passe sur à peu près un an, enfin, avec différentes saisons. Et c'est vrai que, au printemps, c'est le temps du printemps. L'été, c'est la pleine canicule. Et l'automne et l'hiver, en fait, il fait encore doux. Donc, c'est le nouvel état météorologique qu'on a maintenant, où on n'a plus de froid terrible ou même de pluie terrible, et où on peut rester dehors. C'est une sorte de grand sud maintenant, où Paris devient une ville du sud et où on peut vivre dehors en chemise toute l'année, sans neige ou sans verglas. Voilà, le temps, c'est aussi un temps plus doux, quoi.
Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça vous angoisse, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui tient le coup malgré tout, de l'ordre de la joie, malgré ces circonstances?
De toute façon, si on veut des raisons de s'angoisser, on en a des tonnes et des tonnes. Donc c'est pas la peine de se pencher là-dessus. Il vaut mieux prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Et puis c'est ce que le narrateur essaie à chaque fois d'expliquer à l'héroïne, c'est-à-dire que il se passe des choses extraordinaires. Ils ont un peu d'argent, ils sont plutôt en bonne santé, ils sont dans une belle ville. Donc d'abord on se concentre sur tout ce qui va bien, puis ce qui va mal, on s'en occupera au fur et à mesure, en essayant de l'évacuer, de revenir à ce qui va bien, c'est-à-dire se concentrer. Là encore, c'est quelque chose qui est sous-jacent dans le livre, même si c'est pas décrit en tant que tel, mais c'est un monde, une certaine légèreté du XVIIIe siècle français qu'on a un petit peu oublié, qui est celle des peintres Fragonard ou Watteau, quelque chose de où on se concentre sur le plaisir pendant qu'on peut, et on prend tout ce qu'on c'est l'immédiateté et c'est l'éternel printemps, c'est une joie présente et saisie immédiatement, c'est ça.
En même temps, il peut y avoir quelque chose de très profond et même de transcendant dans cette immédiateté, non?
Oui, il y a de toute façon cette attirance mystérieuse et qui doit battre leur cœur, quoi. Enfin, ils peuvent pas se quitter. Donc, il y a un mystère, une profondeur et une densité qui est une gravité même qui est permanente.
Thank you.
Marc Potrel, vous évoquez aussi l'écriture dans le livre, parce qu'elle aimerait être romancière, et donc ça l'amène à lui poser des questions parfois sur l'écriture. Et elle lui demande à un moment s'il faut suivre des ateliers d'écriture, et il lui dit, je vous cite à nouveau, « L'écriture, c'est comme le corps, chacun a son propre corps, il est à soi et il est unique, il faut le protéger et surtout le découvrir seul. » Est-ce que vous avez envie de développer cela, et comment vous voyez l'écriture, le rapport aux mots, tout cela ?
Je crois que pour apprendre à écrire, il suffit d'écrire, et enfin de trouver soi-même son style. Et je crois qu'en fait, beaucoup de gens qui écrivent essaient de faire quelque chose ou d'imiter, et essaient, je vais prendre une expression, ils descendent du vélo pour se regarder pédaler. C'est-à-dire, ils essaient de se donner un genre, alors qu'il faudrait écrire juste comme on raconte. C'est-à-dire, quand on parle, quand on dit voilà ce qui s'est passé, ou voilà où j'en suis, ou voilà ce que je ressens, on parle très facilement. Les mots viennent. Et par contre, quand il s'agit d'écrire, il y a beaucoup de gens, c'est compliqué. Donc, il y a, je ne sais pas si ça vient de l'éducation, ou ça vient d'un respect pour les livres, ou le fait que quand on écrit, ça, on a l'impression que ça ne va pas pouvoir être raturé, ou que ça va être gravé, que ça va. On connaît l'expression les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, voilà, il y a une peur. Et la réussite, c'est de pouvoir. De pas avoir d'obstacle du tout entre la pensée et la main. C'est-à-dire, là, quand je vais de ma tête, je descends mon épaule, le coude, la main. Voilà. Là, il y a plein d'obstacles. Et c'est pas une liaison directe. Il y a des choses qui font interférence. Et quand on réussit à écrire vraiment comme on pense, mais directement comme on pense, ben, voilà, c'est tout de suite juste. Parce qu'en fait, on pense toujours juste. Quand on a une émotion, quand on a, même si c'est de la haine, même si c'est des émotions moralement condamnables, elles sont vraies, elles sont jamais, ou même si on se ment à soi-même, la pensée, elle est toujours vraie. Et par contre, on lit plein de choses qui sont écrites de manière fausse, ou qui sont objectivement illisibles, ridicules, incompréhensibles. Donc il faut juste réussir à écrire comme on pense. Et c'est pour ça que parfois, il y a des textes qui sont des textes de choses vécues, parfois des histoires terribles, et qui sont écrites de manière très, très instantanée, très libre, et qui ont une force énorme. On dit que c'est des témoignages, mais c'est de la littérature quand le lecteur ressent, à travers les mots, ce qu'a ressenti la personne qui a écrit. En fait, tout le cœur de tout, c'est la lecture. C'est-à-dire le fait de lire personnellement, tout bas, en silence. Quand on fait ça, il y a un processus mystérieux dans le cerveau qui crée des images, des sensations, et qui n'a rien à voir avec la vision d'un film au cinéma ou l'écoute d'une musique. Là, c'est la lecture, c'est véritablement une appropriation des choses par la pensée personnelle. C'est, oui, vraiment une appropriation, et un processus très, très mystérieux qui fait que les expériences de lecture peuvent créer des souvenirs parfois de choses. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, votre livre, c'est extraordinaire, il se passe ça, ça se passe à tel endroit. » Je dis « Non, c'est pas écrit dans le livre. » Mais le lecteur, la lectrice est persuadé d'avoir vu ça parce qu'il s'est projeté, ou parce qu'il imaginait, ou parce qu'il a vu tout de suite, ou il a fait un raccourci. Donc, la lecture, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et l'écriture, ben, c'est tout simplement essayer de réussir à produire un texte qui permettra l'expérience de lecture la plus forte pour le lecteur.
Un éloge aussi de la vérité, de la sincérité, de la liberté. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit proche du rêve, ou ça n'a rien à voir ?
Mais en fait, le rêve, c'est des choses qui, quand on rêve à des choses absurdes, qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas réelles. On ne peut pas vraiment écrire les rêves. Par contre, pendant l'écriture, je ne suis pas dans un état de rêve, je suis plutôt dans une sorte d'état de transe, ou de lien justement direct avec la pensée, en essayant d'écrire précisément comme je pense, sans aucun obstacle, sans voilà, en retranscrivant les mots de la façon la plus directe ou la plus proche de la sensation que j'ai en pensant à ce que je vais écrire, c'est-à-dire en repensant un souvenir ou en imaginant le futur ou en pensant, et donc il faut que les mots soient le plus proches de la pensée. Donc effectivement, c'est un état d'esprit où il faut du silence, c'est tout un dispositif compliqué, il faut une pièce fermée à clé, j'écris tout à la main au stylo plume sur des pages blanches, bon voilà. Et donc quand il y a pendant une heure que j'ai réussi à écrire une page, que j'ai eu une heure de silence c'est bon, j'ai fait la journée. Et après, il faut dactylographier, après, il y a tout un pavé de textes qu'il va falloir découper, réagencer, parce que les scènes fortes, c'est mieux de les mettre au début ou de les mettre à la fin, que quand on est arrivé au milieu du livre, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, on laisse tomber le livre. Enfin voilà, tout ça ensuite, c'est du montage logique. C'est-à-dire, s'il ne se passe pas des choses fortes ou s'il n'y a pas quelque chose qui excite la curiosité dès le début, bon, le lecteur, il ne va pas plus loin. Ce n'est pas la peine que la meilleure scène elle soit à la fin et que tout le reste soit ennuyeux. Donc, il faut couper. Donc, je me retrouve, je crois que ce livre-là devait faire 200 pages, le premier manuscrit, avec d'autres scènes que j'ai coupées parce qu'elles étaient moins fortes. À un moment, ils vont à la poste, par exemple. Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, donc j'ai coupé. Et donc en coupant, ça rapproche, ça resserre la succession des scènes, donc ça donne plus de rapidité, plus de dynamique, parce que c'est vrai qu'il se passe pas grand chose quand même dans le texte, enfin, il n'y a pas d'événement énorme, et donc résultat, j'avais 200 pages au début, et je me retrouve avec 100, même pas 120 pages, voilà.
Merci beaucoup, et dernière petite question, si je vous demande ce que l'écriture vous apporte de plus extraordinaire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Mais j'ai l'impression que quand j'ai écrit un texte dont je suis content, même si personne n'a encore lu, j'ai l'impression que ça a ajouté quelque chose au monde, ou que voilà, que ça, comme si j'avais fait même pas une bonne action, mais comme si voilà, il y avait quelque chose qui était amélioré.
Un très grand merci, Marc Potrel. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, ou parler d'un rêve, d'un projet, ou pas spécialement?
Non, j'ai pas de projet, je cherche des idées. Alors ça c'est quand même c'est le mauvais côté, c'est-à-dire que en fait il faut trouver l'idée. Il suffit pas de raconter sa vie ou de raconter des gens qu'on a rencontrés. Il faut trouver l'idée ou trouver l'angle d'attaque ou le ressort. Et ça, c'est quelque chose. Ça fait depuis que je publie des livres, je me torture la tête pour trouver l'idée. Quand il y a l'idée, quand on a trouvé le déclic ou la chose qu'il fallait dire, hop, après, voilà, il suffit de 2 semaines ou 3 semaines en écrivant tous les jours, et puis voilà, mais c'est pas des gros livres, hein, c'est des livres de 100 pages. Mais, et puis, oui, puisque, voilà, il y a l'idée, et l'idée contient tout. Il y a l'idée, c'est, voilà, il faut raconter ça, et puis, elle était plus âgée, et puis, mais oui, c'est bien sûr. Et puis, voilà, d'un coup, il y a l'évidence de cette histoire qu'il faut raconter. Donc, bah, une fois que j'ai trouvé ça, bon, bah, voilà, vu que la plupart du temps, c'est des choses que j'ai vécues, bah, suffit, je me dis, mais il m'est arrivé ça, mais il s'est passé ça, mais c'était comme ça, mais en plus, il y avait ces oies sauvages, il y avait tout ça, il y avait, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, des livres anciens, tout se met en place, tout devient cohérent, en plus, le cerveau a tendance à évacuer tout ce qui n'était pas intéressant, puisque c'est un roman, donc les détails, tout ça est nivelé, et par le souvenir sélectif, quoi, la mémoire sélective, et au final, hop, dès que je trouve l'idée, il y a le livre. Et le problème, c'est que voilà, donc je cherche des idées, ça peut durer un an, 2 ans, et ensuite il suffit d'un mois, c'est écrit. Après, bon, évidemment, il faut corriger, découper, enlever, mais voilà, quand le premier jet a été écrit, le reste, c'est juste du travail de finition.
Merci beaucoup, un très grand merci.
Musique 3, à portée de mots. Axel Thierry.
C'était Ardo, Ardo Avampo, extrait des Madrigali, Guerrieri e Amorosi de Claudio Monteverdi par le Concerto Italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Et c'est la fin de cette émission sur la musique et les lettres. Ce soir, nous étions en compagnie de Marc Potrel qui parlait de son livre L'Éternel Printemps, paru récemment chez Gallimard dans la collection L'Infini. Merci beaucoup à lui. Il signe également la programmation musicale de cette émission. Nous avons également entendu l'adagio du quatuor en mi bémol majeur de Joseph Haydn par le Sondiva String Quartet, le TikTok Choc ou les Maillotins, une œuvre signée François Couperin sous les doigts de Scott Ross, le premier mouvement du concerto pour mandoline en ut majeur d'Antonio Vivaldi par Avia Vital et l'orchestre baroque de Venise, et la sonate en fa majeur Kirkpatrick 296 de Domenico Scarlatti sous les doigts de Scott Ross. Vous pouvez retrouver cette émission dès demain matin sur le site de Musique 3. Merci à Leslie Gutiérrez pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite à chacun et chacune une très belle nuit. Je vous propose de rejoindre 23h en compagnie de Franz Schubert. Voici l'Andante de son quatuor numéro 13, dit Rosamund, par l'ensemble Albenberg.